Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Regard sur le dollar pour cette émission en partenariat avec la revue Questions internationales dont le dernier numéro a pour titre « Le règne du dollar ». Le dieu dollar dont le règne semble sans fin, toujours là malgré les crises, instrument de l'hégémonie américaine et précisément avec cette hégémonie qui s'essouffle, le repli de l'Amérique qui s'opère sur le slogan de l'America First, la question peut se poser. Le dollar est-il toujours aussi irremplaçable et dans quelle mesure le renminbi chinois ou l'euro peuvent-ils à moyen ou long terme le menacer? Nos invités, Françoise Nicolas, directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales et enseignante à Sciences Po, bonjour.
Bonjour.
Patrick Allard, consultant auprès du Centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et ancien haut fonctionnaire au ministère de l'économie et au ministère des Affaires étrangères, bonjour.
Bonjour.
Serge Sûr, professeur émérite à Paris 2 et rédacteur en chef de la revue Questions internationales, bonjour.
Bonjour.
Serge Sûr, pourquoi ce sujet sur le dollar en cette rentrée 2020?
Alors, d'abord, ce n'est pas vraiment un sujet de rentrée parce que le dossier, le volume aurait dû paraître au printemps, mais nous avons été victimes, comme les autres, de la Covid. Ce numéro n'a pas pour autant perdu son actualité. Le dollar se maintient. Nous n'avons pas eu à l'actualiser beaucoup. En fait, nous vous souhaitions faire un numéro sur un dossier sur le système monétaire international. Mais c'est un sujet qui peut apparaître un petit peu rebutant, qui n'est pas très attractif, qui est un sujet d'expertise. Et nous avons pensé qu'il fallait le saisir par sa partie la plus visible, par sa partie la plus importante, qui était celle du dollar. Et on doit bien constater que le système monétaire international, il ne se résume pas au dollar, mais il reste malgré tout dominé par le dollar. Et donc, nous l'avons abordé sous cet angle, ce qui ne nous empêche pas de traiter d'autres questions, notamment les alternatives possibles, le renminbi ou l'euro, et puis, évidemment, dire un mot des alternatives que sont les droits de tirage spéciaux, et puis cette nouveauté, cette apparition récente des crypto-monnaies.
Voilà, vous avez dressé l'éventail de tous les sujets que nous allons aborder dans cette émission.
Mais nous avons une approche large, c'est-à-dire que nous considérons le dollar comme un instrument monétaire, mais un instrument de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est tout de même une forme d'hégémonie américaine.
Alors...
Et de ce point de vue, moi, je suis pas entièrement d'accord avec l'idée que l'hégémonie américaine décline. Je pense que il y a eu une transformation d'un leadership américain en hégémonie, ce qui n'est pas la même chose. Parce que l'hégémonie, elle s'exerce au détriment d'autrui. Le leadership s'exerce dans l'intérêt général. Et je crois que ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont transformé une politique de leadership en une politique d'hégémonie. Mais leur hégémonie, à mon sens, n'a pas véritablement décliné.
Alors, l'hégémonie des États-Unis n'a pas décliné, peut-être un sujet de débat. Patrick Allard, en tout cas, dans quelle mesure peut-on dire que l'hégémonie américaine s'alimente et est renforcée par le dollar? La monnaie américaine, c'est un atout majeur de la politique étrangère de Washington?
Oui, sans doute on peut dire ça. Les rapports entre l'économie et la politique sont toujours complexe et c'est encore plus vrai en relation internationale. J'ai envie de prendre le problème à l'envers. Imaginons, peut-on penser raisonnablement que, par exemple, une diminution du rôle du dollar dans les échanges internationaux de toute nature, la montée, par exemple, du renminbi, suffirait à signifier que les États-Unis n'ont plus la stature qu'ils ont, n'ont plus l'hégémonie ou le leadership qu'ils ont? Ou pour reformuler la question, est-ce que on peut penser qu'on peut s'en pendre à l'hégémonie américaine en substituant le dollar par une autre monnaie comme monnaie internationale? Sincèrement, je pense que non. L'hégémonie, le leadership, ça fait un tout qui s'appuie sur plusieurs choses, et là on rejoint votre question, mais ça se détruit pas par un bout, ça se dématérialise, ça se défait pas par un bout. Donc le renminbi peut monter, l'euro peut monter, sa part dans les échanges internationaux qui est faible pour le renminbi et qui reste depuis longtemps faible, depuis que les Chinois ont formulé l'idée d'en promouvoir l'usage international, ça s'est pas réalisé. Et est-ce que si ça devrait se réaliser, on pourrait dire que c'est grâce à ça que les Chinois renversent le rapport de force avec les États-Unis? Ça me paraît quelque chose de pas raisonnable de penser ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc si vraiment un jour on passe d'une hégémonie américaine à une hégémonie chinoise, sincèrement, ce sera pour mille autres raisons que simplement le remplacement d'une monnaie par une autre. Ceci dit, il est certain que pour une puissance comme les États-Unis, le fait que leur monnaie soit la monnaie internationale, c'est pas anodin, c'est pas sans lien. Clairement, c'est l'un en partie découle de l'autre. À savoir, l'hégémonie fait que la monnaie du pays en question est utilisée. Mais ça s'est vu historiquement autrefois. Il y a une espèce d'homogénéité, de correspondance entre la puissance qui dominait à une époque historique et puis la monnaie qui a été utilisée. On peut remonter du Carolus carolingien, comme son nom l'indique, à la monnaie byzantine, en passant par le peso espagnol, etc., ou le gulden néerlandais, et puis, plus récemment, à l'échelle historique, la livre britannique. Donc, il y a cette correspondance. Et clairement, l'État qui bénéficie, enfin, l'État dont la monnaie est utilisée au niveau international, a des instruments d'influence, de coercition, sur les autres pays que les autres n'ont pas. Les Anglais, bien avant que la Première Guerre mondiale soit commencée, dès lors qu'elle a commencé à être envisageable, et de leur part, ils ont commencé à envisager qu'ils pourraient faire la guerre aux Allemands, ce qui était dans toute l'histoire britannique du 19e siècle est un retournement assez considérable de perspective, ont commencé à envisager de priver les Allemands de l'accès au financement passant par Londres. Ils se sont dit, le blocus c'est très bien, le blocus, on a une grande expérience, nous britanniques, du blocus par des bateaux, est-ce qu'on pourrait pas envisager un blocus sans bateau ? Plus efficace encore, en empêchant le commerce britannique, en les privant de l'accès au financement. Donc du coup, oui, on voit bien qu'il y a eu, et aujourd'hui, on le voit
avec ce que font les Américains et l'extraterritorialité, on y reviendra bien sûr. Juste pour préciser pour nos auditeurs, le dollar, c'est aujourd'hui, et je parle sous votre contrôle à chacun, les 2/3 des transactions commerciales dans le monde et 90% des opérations de change. 60% des réserves de change des banques centrales du monde sont en dollars. L'euro, c'est la deuxième monnaie de réserve mondiale. Quelle est la place aujourd'hui, Françoise Nicolas, du renminbi chinois? Alors déjà, je ne sais pas si on doit dire le renminbi, mais Patrick Allard parlait du renminbi, donc je ne sais pas très bien comment le prononcer, par rapport au yuan. Voilà, précision, Françoise Nicolas.
Disons yuan, c'est beaucoup plus simple.
C'est plus facile à dire aussi.
Plus facile à prononcer, voilà. Non, on peut dire yuan, c'est l'appellation la plus classique, donc allons-y pour le yuan, de toute façon on parle de la même chose. Donc cette monnaie chinoise, contrairement à ce qu'on pense, et effectivement là je reviens sur ce qui a été dit précédemment, bon, la monnaie c'est un instrument de puissance, c'est un instrument qui est utilisé pour exercer la puissance, mais c'est tout. Il ne faut pas croire que parce qu'on a la puissance, automatiquement la monnaie va suivre. Et dans le cas de la Chine, on a pensé que comme la Chine montait en puissance justement, comme son poids dans le PIB mondial ça croissait, maintenant c'est la première puissance au monde, automatiquement, mécaniquement, sa monnaie allait devenir une monnaie internationale et allait son usage allait se généraliser. Et on constate que ça n'est absolument pas le cas. Dans les réserves de change, le yuan a une part absolument ridicule. On est à peine 2%. Alors ça dépend des années et des moments. Non, c'est tout à fait ridicule. Et de la même manière, dans les échanges, le yuan est très peu utilisé. C'est la même chose pour l'émission de dette. En fait, quels que soient les indicateurs qu'on choisit, et là, il y a foultitude d'indicateurs dans la revue, on constate que le yuan n'est pas du tout en passe de l'emporter sur la monnaie américaine. Donc on a effectivement un lien évident entre puissance économique et utilisation de la monnaie, mais ce lien n'est pas automatique. Il faut pas croire que oui mécaniquement ça va se passer. Cela étant, je voulais revenir sur l'aspect instrument de puissance qu'est la monnaie. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même avoir présent à l'esprit. C'était cette fameuse citation du secrétaire au Trésor américain à l'époque de Nixon qui avait dit le dollar c'est notre monnaie et c'est votre problème. Et je pense que ça résume quand même assez bien ce qu'est une monnaie internationale et la puissance qu'une monnaie peut avoir. on est beaucoup plus confortable si sa monnaie est, enfin, si un pays a une monnaie internationale, il est assez relax, on pourrait dire ça comme ça, parce qu'il y a tout un tas d'ajustements qu'il n'a pas à faire. Ce sont les autres qui doivent s'ajuster à lui. Et c'est exactement ce que les Américains voulaient dire avec cette, dans cette citation. Donc le fait d'avoir une monnaie qui est internationalement acceptée, qui est internationalement utilisée, c'est quand même un atout de puissance tout à fait singulier. Mais c'est le résultat d'un long processus. Et c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et qui se fait automatiquement, juste simplement parce que un pays ou une économie accroît son poids.
Alors, est-ce que, pour aller plus loin dans votre raisonnement, Françoise Nicolas, on peut dire que finalement ça arrange les autorités chinoises que le yuan ne soit pas une monnaie aussi internationale que le dollar? On peut juste rappeler aussi, c'est tout de même assez étonnant, que le dollar est toujours prédominant et la monnaie véhicule du financement des projets de la stratégie chinoise des routes de la soie. C'est quand même...
Oui, là, je pense que l'explication, là, elle est assez simple. Dans les projets de routes de la soie, bon, c'est comme dans beaucoup de choses, hein, il faut être deux. Et il faudrait que les autres, que les partenaires de la Chine acceptent l'utilisation du yuan. Alors c'est là il y a une différenciation à faire entre ce qui se passe dans le voisinage immédiat de la Chine et ce qui se passe un peu plus loin. En Asie du Sud-Est, l'utilisation du yuan est quand même un peu plus développée qu'ailleurs. Mais ailleurs, encore faudrait-il que les partenaires de la Chine soient prêts à utiliser le yuan, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc ça explique aussi, je pense, que le dollar reste la monnaie qui est la plus utilisé. Alors, est-ce que ça arrange les Chinois que ce yuan ne soit pas une monnaie internationale? Oui et non. Quelque part, il y a une volonté de la part de la Chine d'affirmer sa puissance à travers la monnaie. Il y a une volonté d'internationalisation du yuan, etc., etc. Donc là, on voit bien qu'on a une petite amorce pour essayer de détrôner le dollar. Cela étant, ça veut dire aussi tout un tas de contraintes pour la Chine. Ça veut dire que il faudrait qu'il y ait une libéralisation beaucoup plus grande du système financier domestique. Et là, on voit bien qu'il y a des avancées et des reculades successives. Il y a une volonté, mais je pense que les autorités chinoises se rendent compte de toutes les contraintes qui s'accompagnent de cette internationalisation. Et donc, il y a une tendance, une force de rappel, en quelque sorte, qui s'exerce et qui empêche cette internationalisation. On a aujourd'hui une sorte de convertibilité qui n'est que partielle du yuan, et une internationalisation qui est en cours, mais qui n'est absolument pas aboutie. Et je pense qu'il y a une grosse part d'explication qui tient à la réticence des autorités chinoises à s'engager dans cette voie, parce que ça serait, pour elles, assez coûteux.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, réticence des autorités chinoises. Pourtant, on a senti après, à la suite de la crise de 2007-2009, un certain malaise à la fois chez les Chinois et chez les Russes par rapport à la domination du dollar. Mais finalement, les réactions de ces deux pays sont jusqu'à présent restées plus ou moins modestes. Patrick Allard, quelle est aussi la part de résistance des États-Unis à voir d'autres monnaies émerger? Ou Serge Sûr?
Non, en fait, moi, je voulais revenir sur l'apparition du dollar comme monnaie de réserve internationale. Parce que, il ne faut pas oublier que ça remonte à 71, qu'il y a eu un coup de force américain, qu'il y a eu une manifestation unilatérale, qui a rompu les accords de Bretton Woods, parce qu'avant, la monnaie internationale, c'était l'or. C'était un système qui reposait sur la convertibilité du dollar en or, et les États-Unis ont rompu avec cette convertibilité. Du coup, ils sont devenus à la fois monnaie nationale et internationale. Ce qu'il n'était pas auparavant. Et il n'y a pas de précédent où un pays est à la fois une monnaie nationale qui soit en même temps internationale. Parce que les autres monnaies, il y avait toujours une référence extérieure. C'était soit l'or, soit le bimétallisme, or et argent. Mais il y avait un étalon commun, qui n'était pas la seule monnaie. Et les États-Unis refusant de dévaluer à cette époque, parce que le problème était celui de la dévaluation du dollar qui avait été très affaibli pour différentes raisons, les États-Unis ont décidé de laisser flotter leur monnaie et d'en faire une marchandise comme une autre. Et depuis lors, il est toujours à la tête des marchés et au fond, le dollar est traité comme une marchandise. Alors, le fait qu'il soit dominant est tout de même la traduction. Je suis d'accord avec le fait que ce n'est pas l'élément déterminant, mais c'est la traduction d'une hégémonie.
Et l'or, dont on peut dire quelques mots aussi, démonétisé, comme vous l'avez dit, Serge Sûr.
Le vil métal dont parlait
Pourtant,
Keynes.
Les banques centrales continuent aujourd'hui d'amasser comme jamais ce métal précieux dans leurs chambres fortes. Quelle en est la raison, Patrick Allard? Après ça, je reviendrai à ma question hein, sur les réticences américaines à l'émergence des autres monnaies. Je ne l'ai pas oublié.
Oui, sur l'or, rapidement, l'or, clairement, reste un actif, puisque ça n'est plus une monnaie. Mais une monnaie, c'est aussi un actif. Hein. Donc, c'est un actif parmi d'autres au refuge. Et donc, quand il y a remonté des craintes d'inflation, les gens se portent, certains, certaines personnes se portent sur l'or qui monte dans ces circonstances. Or, aujourd'hui, il y a des craintes... Un renouveau dans certains secteurs des marchés ou de l'opinion sur les perspectives d'inflation à la suite des réactions très très vives des banques centrales pour faire face à la dégradation fantastique des finances publiques des différents États qui a été provoquée par l'épidémie qui se continue. Donc les banques centrales sont venues en secours des États en monétisant la dette d'une manière soft, c'est pas l'émission comme on l'a connue autrefois, mais c'est bien, ça revient pas exactement au même parce que les mécanismes sont beaucoup plus compliqués et ça passe par les intermédiaires financiers, donc tout dépend ensuite du comportement des grands intermédiaires financiers, mais c'est bien à ça qu'on a assisté. Donc il y a une espèce d'inquiétude qui sourd quelque part et qui fait que d'autres actifs alternatifs apparaissent comme plus à même de sauvegarder le pouvoir d'achat. Donc c'est l'or, c'est un peu les cryptos. Vous avez remarqué que l'immobilier marche bien en général. Et ça, c'est quelque chose de classique, que l'immobilier marche parce que c'est les biens réels, des biens qui sont supposés être
concrets,
dont le prix peut s'élever avec l'inflation. Okay. Donc il y a ça, effectivement, qui se produit.
Alors, la part de résistance des États-Unis à l'égard de l'émergence et de l'emploi de monnaies alternatives au dollar, je pense à l'euro et puis au yuan, Patrick Allard.
Il ne fait aucun doute que les autorités américaines apprécient le rôle du dollar, le statut du dollar, c'est pas quelque chose qui les gêne. Et d'ailleurs, ça ne gênerait pas les Européens si leur monnaie avait le même statut. Et ça ne gênerait pas les Chinois si les Européens avaient le statut. Et Mugabe, autrefois, était ravi que le dollar zimbabwéen, eux-mêmes, ait un statut de monnaie internationale s'il avait pu. Ça lui aurait enlevé bien des problèmes. Donc c'est quelque chose auquel, certainement, ils sont attachés. À la fois pour mille raisons, hein, pour des raisons économiques, de faciliter des transactions, et ça c'est plutôt le business américain aime bien ce genre de choses. Mais le business du monde entier aussi est content qu'il y ait une monnaie internationale, et les autorités, la diplomatie américaine apprécie effectivement ce statut parce que ça donne un levier qu'ils ont découvert tardivement, hein, l'usage massif des sanctions financières. Ça a même un nom aux États-Unis, hein, c'est les smart sanctions, hein, les sanctions
intelligentes,
c'est ça. Ou grosso modo, en utilisant ce vecteur, en fait, ça consiste à priver les acteurs néfastes à la politique américaine d'accès aux moyens de financement en dollars. Donc du coup, on pense couper les finances de cette manière. Sincèrement, que ce genre d'idée puisse venir à un État comme les États-Unis paraît la chose la plus naturelle du monde. Hein. Vous êtes une puissance, grande ou petite, vous n'avez pas forcément envie d'aider les gens qu'à tort ou à raison vous jugez être vos ennemis ou les gens qui mènent des politiques qui vous nuisent à vous servir des instruments que vous avez mis en place. Ça paraît logique de, encore une fois, j'évoquais tout à l'heure le cas de la Grande-Bretagne se préparant à une éventuelle guerre avec l'Allemagne. La première chose qu'ils ont faite était de couper l'accès, encore une fois, des importateurs allemands à la finance anglaise parce que c'était un moyen de limiter l'effort de guerre allemand. Donc c'est quelque chose qui devient naturellement. Et si l'euro était un moyen de financement équivalent à celui des dollars, je vous garantis qu'il y a plein de secteurs en Europe, plein de pays qui seraient prêts à mener une politique de coercition vis-à-vis d'éventuels ennemis, etc. Et d'ailleurs, on le fait. Et alors, l'instrument en question est utilisé aussi pour le blanchiment. Il est utilisé contre énormément d'activités jugées néfastes à l'ordre en général. Oui.
On vous retrouve, Patrick Allard, avec Serge Dessure et Françoise Nicolas après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur le dollar pour cette émission en partenariat avec la revue Questions internationales, dont le dernier numéro a pour titre Le règne du dollar. Nous retrouvons nos invités. Françoise Nicolas, directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales et enseignante à Sciences Po. Patrick Allard, consultant auprès du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Et Serge Sur, professeur émérite à Paris 2 et rédacteur en chef de la revue Questions internationales. Françoise Nicolas, qu'est-ce que l'on peut dire des obstacles à l'internationalisation du yuan aujourd'hui ?
À la montée en puissance, en tout cas la capacité du yuan à remplacer le dollar. Bon, on a parlé des résistances, à la fois du côté chinois et du côté américain, mais il me semble qu'il y a aussi des obstacles qui tiennent au reste de l'environnement. Et là, il me semble qu'il y a deux notions importantes à avoir à l'esprit. La première, c'est l'inertie. Il y a des inerties extrêmement fortes et si on regarde pas notamment l'utilisation des monnaies dans les échanges commerciaux, on voit qu'il y a des habitudes qui sont prises et dont il est extrêmement difficile de se départir. Et typiquement, on voit que tout le commerce des matières premières, ce négoce, réalisé en dollars. Et pour faire changer les choses, je pense que ça va être très 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 compliqué. Donc je pense qu'il y a cet aspect inertiel qu'il ne faut pas négliger. Et puis il y a une autre notion très importante aussi, qui explique là encore les difficultés du yuan à s'imposer, c'est l'absence de confiance. Là encore, pour qu'une monnaie soit acceptée, il faut qu'elle inspire confiance. Il faut notamment que le système financier domestique du pays qui émet la monnaie en question inspire confiance, qu'il soit relativement liquide, qu'il soit important, donc il y a une assise assez, assez large. Et dans le cas du yuan, ça n'est pas encore le cas. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir à l'esprit ces deux notions, inertie d'une part, confiance de l'autre. Et c'est ça qui, à mon avis, explique aussi que le yuan ait un petit peu de difficulté pour l'heure encore à s'imposer aux côtés du dollar.
Le rôle...
En plus des résistances assez, assez naturelles côté américain et des difficultés que les autorités chinoises ont elles-mêmes.
En tout cas, c'est intéressant de relever que le rôle des marchés stratégiques et particulièrement du marché du pétrole est important dans le maintien du dollar. Est-ce que l'on retrouve ces obstacles en ce qui concerne l'euro, Patrick Allard ?
L'euro est déjà une monnaie internationale et l'euro en tant qu'il succède au Deutschmark, au franc français, qui était déjà dans les droits de tirage spéciaux quand ils ont été créés, mais que l'euro a remplacé en les subsumant en quelque sorte. Et la part que l'euro a aujourd'hui n'est pas radicalement différente de celle qui était la part cumulée des monnaies qui composent l'euro aujourd'hui, un peu plus forte aujourd'hui qu'elle l'était autrefois. Et l'euro est une monnaie régionale. Beaucoup de pays qui sont un peu de ce point de vue-là, comme le yuan, beaucoup de pays qui commercent beaucoup avec l'Union européenne, que ce soit les pays de l'Est ou les pays du sud de la Méditerranée, ont des réserves en euros et utilisent l'euro dans leurs relations commerciales et financières. Et l'euro est une grosse monnaie d'endettement. Beaucoup de pays ont placé des titres obligataires, par exemple, ou font des crédits en euros. Il y a depuis quelque temps une volonté de l'Union européenne de promouvoir le rôle international de l'euro. Ça fait partie de tout le discours qui s'est imposé peu à peu sur la souveraineté européenne. Et l'euro, un euro internationalisé, plus internationalisé qu'il n'est aujourd'hui, serait vu comme un élément de renforcement de cette souveraineté. La Commission elle-même, dans ses rapports, signale à quel point certaines des politiques européennes seraient un facteur de promotion de l'euro, en particulier la formation d'un marché européen de capital, qui n'est pas achevé en Europe, malgré des années de construction européenne. De même, la fin de l'achèvement d'un système de garantie, du système bancaire, la création d'un système bancaire au niveau européen, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui où on a beaucoup de systèmes fractionnés. Et puis, l'émission d'une dette proprement européenne. Donc, un pas apparemment a été franchi avec la décision de faire cela. Et donc, l'idée, c'est que vous n'êtes pas une monnaie internationale si vous n'offrez pas aux gens qui ont besoin de se servir de cette monnaie un moyen de placement de leur liquidité qui soit liquide, ça vient d'être évoqué, liquide, facile à mobiliser et en quel on a confiance.
Alors, juste aussi pour nos auditeurs, les droits de tirage spéciaux, là aussi je parle sous votre contrôle, c'est ce qui permet aux entreprises d'obtenir des crédits qui ne reposent pas seulement sur le dollar, mais sur un panier de monnaie dans lequel ce panier rentre l'euro, la livre, le yen japonais et le yuan chinois. Françoise Nicolas.
Oui, tout à fait. Mais je veux revenir sur ce que disait Patrick Allard tout à l'heure, sur l'utilisation de l'euro et sur la montée en puissance de cet euro. Oui, c'est vrai, mais, si on regarde en quelle monnaie le commerce européen est libellé, on voit qu'il y a une part non négligeable, et non négligeable c'est de l'ordre de 30%, qui est encore réalisée en dollars. Donc, oui, l'euro, effectivement, est une monnaie qui s'internationalise, donc on voudrait pousser l'utilisation, mais il reste que le dollar, même pour les pays européens, est encore une monnaie très très utilisée dans les échanges commerciaux. Donc, l'aspect inertie dont je parlais tout à l'heure m'a l'air vraiment très très important. Pour revenir au droit de tirage spécial, oui, effectivement, ces droits de tirage spéciaux, c'est une... un panier de monnaie, donc dans ce panier de monnaie rentrent les principales monnaies internationales, mais avec une pondération qui dépend de l'importance accordée à chacun des pays. Et le coefficient de pondération du dollar est infiniment supérieur aux autres. On est à plus de 30%, l'euro est en second, et le yuan, qui est rentré récemment, a un coefficient de pondération qui est extrêmement faible. Je crois que c'est 5%, même pas. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc c'est tout à fait marginal. Cela étant, ce que ça reflète, c'est une volonté de la communauté internationale d'accepter justement la monnaie chinoise comme étant une monnaie désormais internationalement acceptée.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, je voudrais revenir sur ce qu'évoquait précédemment Patrick Allard sur la monnaie, instrument d'influence et de coercition. On s'interroge toujours à propos des puissances de la part du soft et du hard power dans l'exercice de leur leadership. Il est impressionnant de constater combien Serge Sure, avec le dollar, le hard power a pris le dessus. En introduction du dossier, vous citez l'exemple de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Il a suffi que les États-Unis sortent de l'accord pour que la relation économique avec l'Iran soit paralysée également pour les pays européens, avec des sanctions qui leur sont imposées. Il y a Cuba aussi, avec Cuba, les Américains parviennent aussi à faire pression sur les Européens. Est-ce que ceci ne peut pas se retourner contre les Américains ?
Écoutez, à l'heure actuelle, pas vraiment. Alors c'est tout le problème que vous soulevez là, qui est celui de la prétendue extraterritorialité du droit américain. En l'occurrence, je crois que l'expression n'est pas du tout justifiée et que le terme d'extraterritorialité n'est pas pertinent. D'abord, lorsque des sanctions sont imposées à des entreprises européennes, françaises ou autres, si elles entreprenaient de commercer avec l'Iran, c'est tout simplement parce qu'elles ont des activités aux États-Unis. Les sanctions sont prises aux États-Unis, s'appliquent aux États-Unis, elles sont donc dans une certaine mesure territoriales. Et l'extraterritorialité supposée, c'est en fait une confusion entre la compétence territoriale et la compétence personnelle. C'est dans la mesure où des entreprises tombent sous la juridiction américaine, parce qu'elles ont des activités aux États-Unis, qu'elles relèvent du droit américain. Et la compétence personnelle, tous les États l'exercent. Lorsque vous vous rendez à New York, vous restez soumise au droit français, pour tout ce qui est de votre statut civil, de vos droits politiques, etc. Donc il y a aussi une extraterritorialité du droit français de ce point de vue, mais en réalité c'est la compétence personnelle qui s'exerce. Donc le terme n'est pas exact. Il y a malgré tout une certaine forme d'extraterritorialité, mais elle est différente. Et je vais raconter une petite anecdote. L'anecdote est la suivante. Lorsque les sanctions contre l'Iran ont été imposées, certains Français se sont dit, mais après tout, on pourrait très bien imaginer de commercer avec l'Iran des sociétés qui n'ont aucune activité aux États-Unis, qui n'utilisent pas le dollar. Et par exemple, on va prendre le crédit municipal, le Carpentras, et puis on va lui demander des crédits. Et on va commercer avec l'Iran. On a posé la question au président de la Fed. Est-ce que ça tomberait sous le coup des sanctions américaines? Il a répondu, ben non, ça ne tombe pas sous le coup des sanctions. Mais vous aurez besoin de dollars, vos banques auront besoin de dollars. Et il y a des accords swap, des accords d'échange de monnaie. Vous n'aurez pas de dollars. Et donc là, le dollar frappe des économies, même qui n'ont aucun lien avec les États-Unis. Et c'est en quoi la Fed, dans une certaine mesure, dirige l'économie mondiale. Parce qu'elle ouvre ou elle ferme les crédits. Et si l'euro, par exemple, a développé une politique qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire de facilité de crédit extrêmement abondant, c'est parce que la Fed le faisait. Elle a imité en quelque sorte la Fed. Et si demain la Fed décide de fermer les crédits, l'euro sera obligé de suivre. Enfin, je dis ça sous le contrôle de Patrick Allard et de Françoise Nicolas. J'affirme ça, mais c'est peut-être une prétention excessive.
Alors, la Fed, institution américaine en principe indépendante, mais dont le directeur est nommé par le président, avec ratification du Congrès. Je ne sais pas si, Patrick Allard, vous souhaitez rajouter quelque chose à ce qui s'est dit sur les questions d'extraterritorialité. Après ça, j'aimerais bien qu'on aborde la question des crypto-monnaies.
Il faut tomber d'une manière ou d'une autre sous la juridiction américaine, soit en ayant des activités sur place, soit en utilisant des moyens, même à l'étranger, qui sont liés d'une manière ou d'une autre. Tous les États ont la même capacité à poursuivre à l'étranger des activités qu'ils perçoivent comme nuisibles.
Oui. Alors, les alternatives au dollar. On a parlé des droits de tirage spéciaux, on a parlé de l'euro. J'aimerais qu'on aborde la question des crypto-monnaies. En juin 2019, Facebook annonçait son intention de lancer sa propre crypto-monnaie, la Libra. On recensait au printemps 2020, c'est-à-dire au printemps dernier, près de 5500 monnaies et jetons en circulation dans le monde entier pour une valeur proche de 270 millions de dollars. Alors, il y a une politique assez variée des pays qui, selon les uns et les autres, sont soit favorables, soit défavorables aux crypto-monnaies. Quelles questions posent ces crypto-monnaies aujourd'hui, Patrick Allard?
Merci, oui. C'est assez paradoxal qu'on parle des crypto-monnaies comme possible alternative au dollar dans la perspective du conflit entre les grandes puissances. C'est bien le contexte dans lequel on se situe. Parce que les crypto-monnaies, elles sont nées, en fait, d'un mouvement anarcho-libertaire. Un mouvement extrêmement ancien, qui remonte à la nuit des temps, si on veut. Et des gens qui, notamment à la suite de la crise financière, se sont dit, mais c'est pas possible de vivre dans un monde où on dépend des banques, et notamment des banques centrales. Donc on a voulu mettre en place, et c'est ce qui a été fait avec le Bitcoin, qui est le premier, et tous les autres, grosso modo, suivent le même modèle. On a voulu mettre en place un système de paiement sans tiers de confiance. C'est-à-dire sans qu'il y ait quelqu'un qui soit là, au sommet de la pyramide, et qui garantit à tous les autres que les paiements sont effectivement faits comme ils doivent être faits, que quand vous vendez quelque chose, vous êtes sûr de recevoir quelque chose qui est vraiment, en échange, utilisable de votre côté. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec les cryptos. Et les cryptos, le Bitcoin en particulier, est une monnaie qui garantit la sécurité des systèmes de paiement sans intervention d'un tiers extérieur. Donc, on est vraiment dans un monde de totale liberté et d'anonymat. Et c'est ce qui a beaucoup plu alors à toute une frange de population plutôt anarcho-libérale ici. Alors, il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a énormément en Californie.
Et en Chine, c'est intéressant de poser la question à Françoise Nicolas.
Les Chinois étaient très intéressés à l'origine, n'est-ce pas, Françoise?
On a vu aussi que ça finançait le terrorisme.
Ben oui, à cause de l'anonymat. Absolument. À cause de l'anonymat. Et ça continue. Ben, on lisait dans la presse qu'il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet antiterrorisme à Paris pour financement du terrorisme d'ISIS, précisément par des cryptos.
ISIS, donc,
l'État islamique. Oui, j'utilise le terme ISIS. Daesh, quoi. C'est les mêmes horreurs. Donc, c'est un peu paradoxal. Alors, il y a des projets qui ont été formulés par les banques centrales, par les autorités publiques en Chine et en Russie et aussi au Venezuela, et etc., de créer une monnaie digitale, une crypto-monnaie banque centrale qui pourrait éviter d'utiliser le dollar pour faire des transactions internationales. Mais alors, vous voyez que c'est là le paradoxe. C'est-à-dire que vous envisagez de passer du monde de l'anarchie, de la liberté, de l'anonymat, au monde de l'autoritarisme. Et avec le même vecteur. On ne peut pas prétendre que c'est la même chose. Donc, les crypto-monnaies classiques, anarcho-libertaires, comme substitut, oui, mais à condition que les gens veulent utiliser ces vecteurs-là comme monnaie. La crypto-monnaie qui serait mise en place par la Banque Centrale Chinoise, elle aurait fondamentalement, très bien, mais elle aurait les mêmes problèmes que le yuan, à savoir que c'est la monnaie d'un État autoritaire, qui respecte modérément l'anonymat, qui a peu de soucis des questions de vie privée, etc., et qui est fort bien capable de vous piquer, si ça l'intéresse, les sommes qui sont chez vous. Donc on retrouverait avec...
qui inspire modérément confiance.
Voilà, avec n'importe quelle monnaie émise par la banque centrale chinoise ou l'État chinois, les mêmes problèmes probablement de confiance qu'évoquait tout à l'heure, à juste titre, Françoise. Donc je vois pas vraiment une véritable alternative pour dire les choses, simplement. Mais ce qui pourrait faire plaisir à Serge Sûr, dont je vantais tout à l'heure, même s'il s'en défendait, j'admirais son amour pour le dollar. La Libra a été un exemple de ce qu'on appelle les stable coins, c'est-à-dire les monnaies stables, c'est-à-dire des monnaies. Alors, c'est amusant parce qu'on retrouve ce qui est à l'origine du statut du dollar international, c'est-à-dire qui effectivement n'est pas adossé à l'or, mais qui est bien une monnaie d'un État, mais qui sert d'étalon à tout le monde, parce que il en faut un, tout simplement. Donc des stablecoins, comme celle qu'envisageait Libra, et vous en avez des foultitudes parmi les cryptos dont vous citez.
C'est-à-dire parmi les plus sérieuses, en tout cas, en guise de projet, que cette Libra,
on voit ressurgir
avec Facebook derrière.
Voilà. On voit ressurgir l'idée qu'on a besoin d'un étalon stable, d'un point fixe, pour mesurer les valeurs, pour mesurer les prix au niveau international. Et le dollar a fourni ça, mais il a tous les inconvénients qu'on pourrait encore développer en long et en large. Et les stablecoins, et d'ailleurs les Libra, a inquiété fortement le projet des banques centrales ici et là. Les Américains ont réagi assez négativement.
Il faut dire que Facebook, c'est l'État le plus peuplé de la planète, si on voulait le traduire en termes de population. Pour terminer cette émission, malheureusement, le temps tourne très vite, évidemment. Vous avez beaucoup parlé de la question de confiance. Alors, on a souligné la position incontestée du dollar, qui tient à la puissance et à la stabilité de l'économie américaine et à sa force de pays refuge, en tant que première puissance militaire mondiale. Tout de même, la question actuelle des déficits américains, que les Américains n'entendent pas juguler, et qui place les États-Unis dans une position de débiteur à l'égard du reste du monde. Quelles sont les limites à cette position? Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de crédibilité du dollar avec des États qui seraient tentés de convertir en or leurs avoirs en dollars? Je ne sais pas qui souhaite... Serge Sûr, quelques mots et ensuite...
Mais ils ne peuvent pas, le dollar est inconvertible en or. Donc, ils ne pourraient pas le faire. Pour ce qui est de la dette, il faut bien dire que tous les États sont endettés. On a assisté au cours de ces dernières décennies à un phénomène de paupérisation des États, qui est lié à la privatisation de l'économie. Mais je ne pense pas du tout que la dette américaine soit une menace pour le dollar. À la limite, au contraire, elle renforce sa puissance. Parce que les créanciers sont en définitive dépendants de leurs débiteurs. C'est la fameuse formule, si vous devez 10 euros à quelqu'un, vous êtes son obligé, mais si vous devez lui 100 000 euros, c'est lui qui est votre obligé. Et en fait, les États-Unis vivent à déficit et font financer leur déficit par autrui. Et c'est un élément de l'hégémonie américaine. Non pas du leadership, mais de l'hégémonie américaine, parce qu'ils vivent aux dépens d'autrui. Et je ne suis pas du tout un défenseur du dollar, je suis au contraire. C'est vrai que c'est une monnaie incontestable, mais pas incontestée.
Alors, très rapidement, en guise de conclusion, en quelques secondes, Patrick Allard, la dette américaine renforce sa puissance?
C'est un des supports du rôle du dollar, parce que la dette américaine, c'est des titres que les gens peuvent acheter, dans lesquels ils peuvent placer du dollar. Donc, comme cette dette est grande, qu'elle est liquide, le dollar offre, de ce point de vue-là, un support aux épargnes du monde entier qui veulent se placer. Et alors, il y a quand même les histoires de confiance, et puis... De liberté des échanges. Et le yuan a le gros problème de ce point de vue-là.
Je passe la Patrick parole. Allard qui se tourne vers Françoise Nicolas, qui n'est pas coupable dans cette affaire, mais simplement...
Non, mais le mot-clé, c'est la confiance, c'est clair. Et si on croit que le système peut encore durer, il durera. Si on y croit.
Merci.
Ça marchera.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Françoise Nicolas, je rappelle que vous êtes directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales et enseignante à Sciences Po. Patrick Allard, consultant auprès du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et ancien haut fonctionnaire au ministère de l'économie et au ministère des Affaires étrangères. Et Serge Sûr, professeur émérite à Paris 2, rédacteur en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro a pour titre « Le règne du dollar ». Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Louise Calédec et Nathalie Laporte. À demain.